Ce matin, je voulais partager avec vous certaines pensées qui touchent notre situation actuelle, d'accord? Lala et moi, nous avons eu une réunion dimanche dernier. Cette semaine, j'ai pu prendre un café avec Monsieur Conrad qui gère la salle ici, la salle là-bas, et en réfléchissant sur notre situation en tant qu'une église, mais aussi en tant qu'une société, j'avais ces idées dans ma tête qui m'ont interpellé, qui m'ont dirigé envers ce passage, ces passages en acte, et cette idée d'une église immuable qui s'adapte. D'accord? On a deux idées ici qui semblent ne pas aller ensemble. D'être immuable, c'est on ne change pas. S'adapter, mais ça veut dire qu'on doit changer. D'accord? Et on a ces deux choses qui vont ensemble. Et ce que je voulais faire ce matin, c'est juste jeter une vision, au moins le fondement d'une vision, fondation d'une vision, pour la suite. D'accord? Nous nous trouvons dans une société qui est un peu dans la confusion et bien sûr dans l'obscurité. Nous ne savons pas comment les choses vont évoluer. Mardi, nous allons avoir la rentrée. Mais il se peut que deux semaines après, nous allons avoir la sortie. On ne sait pas avec le COVID et tout ce qui se passe. Les entreprises maintenant doivent changer comment ils font les choses parce que le COVID. Les entrepreneurs doivent revoir comment font les choses. Les écoles, les gouvernements, les compagnies aériennes. Bon, tout le monde doit dire comment on peut changer pour continuer, pour avancer. Et c'est en fait la même chose pour nous. Par exemple, je regarde maintenant et je ne vous connais pas, sauf que les yeux d'ici. Hein. Maintenant, on ne peut plus manger ensemble à l'église comme on faisait pendant des années, des années, des années. On n'a pas des classes bibliques. On n'a pas des réunions de prière en personne. On a plusieurs choses qu'il faut revoir, et il faut décider c'est quoi qui est essentiel, immuable, et c'est quoi ce qu'il faut adapter. D'accord? Ça, c'est ce que je veux parler un peu ce matin, l'Église immuable qui s'adapte. Et juste un petit survol des actes des apôtres. Okay? D'abord, première chose à noter, c'est que dire que c'est les actes des apôtres, ce n'est pas tout à fait correct. C'est en fait les actes de Jésus-Christ ressuscité à travers ses apôtres. Peut-être vous dites, Michael, c'est un peu trop. Hein? Non, il faut faire attention. Jésus-Christ est toujours au centre. Okay? Et pourquoi je dis ça? Juste regardez Actes chapitre 1. D'accord? Et nous trouvons que Luc a écrit ce livre d'histoire, mais c'est le deuxième tome. Il a déjà écrit un tome, c'est l'Évangile selon Luc. Et ici, au début, il fait référence au premier tome en disant « Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que qui a commencé à faire. » Jésus, l'implication c'est quoi? Je vais continuer à parler de ce que Jésus fait, mais maintenant c'est à travers Jésus qui est ressuscité et monté au ciel et qui a donné son esprit. D'accord? Et j'ai mis pas mal de références. Si vous voulez, je peux vous envoyer le PowerPoint plus tard. Enfin, il ne faut pas essayer d'écrire toutes ces références, ni les mémoriser. Mais vous pouvez faire vous-même. Si vous avez un logiciel en ligne ou sur votre téléphone, ou portable ou ordinateur, si vous cherchez le mot esprit en acte, vous allez voir vite comment c'est en fait l'esprit de Jésus qui agit, qui envoie les personnes ici, qui embête les personnes ici, qui fait ça et ça et ça. C'est l'esprit de Jésus-Christ. Donc, quand on parle des actes des apôtres, attention, c'est en fait les actes de Jésus-Christ à travers ces apôtres. Deuxième chose, les actes suivent un plan géographique. D'accord? Chapitre 1, le verset 8, Jésus dit, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Ok? Et ça nous donne un peu le plan pour les actes de Jésus-Christ à travers les apôtres. Parce que Jérusalem, c'est au centre, chapitre 1 à 7. Et on voit le début de l'Église parmi les Juifs, à Jérusalem. Et ensuite, les chapitres 8 à 10, nous avons un changement énorme dans ce que Dieu fait dans le monde. Parce que maintenant, ce n'est plus que les Juifs, c'est les personnes qui habitent dans la Samarie. Et ça choque. Hein? Ça choque. Ah non, non, pas eux. Si vous pouvez penser à un peuple dans votre culture qui est détesté, d'accord, une ethnicité, une communauté, quelqu'un, que quand votre culture vous les voit et vous dites, ah, non, ils ne peuvent pas venir. Ça, c'était les non-juifs pour les juifs. Mais maintenant, Jésus dit, pas que les juifs, mais aussi les non-juifs. Et il faut, maintenant, chapitre 11 et 12, il faut une réunion pour Pierre à dire aux croyants qui sont juifs, ah, mais c'est Dieu, c'est Jésus, l'Esprit de Jésus qui fait ces choses, comment nous pouvons dire non? Il faut qu'on accepte les non-juifs. Et je pense que tout le monde ici dise merci Seigneur, parce que nous sommes des non-juifs, hein, d'accord? Et nous disons, super, maintenant nous pouvons faire partie de la famille de Dieu. Et nous voyons les chapitres 13 à 28, les extrémités de la terre. Voilà, voici le plan des actes de Jésus-Christ à travers ses apôtres. Et juste une chose à monter aussi, par point survol, les actes racontent la croissance irrésistible de la voie, le christianisme. Si vous tournez vers la fin des actes, d'accord? Les actes, le verset, chapitre 28. Qui est en prison au chapitre 28 des Actes? C'est Paul, l'apôtre. D'accord? Il est en prison. Le verset 30, nous lisons, « Paul demeura 2 ans entiers dans une maison qu'il avait louée. Il recevait tous ceux qui venaient le voir. » Mais ce n'est pas comme moi quand je suis arrivé en France et je pouvais choisir une maison à louer, après je peux sortir, je peux faire ce que je veux. Paul était dans une maison avec les soldats. Et il avait les chaînes qui liaient Paul avec les soldats. Oui, il avait le droit de recevoir les visites, mais il n'était pas libre. Mais qu'est-ce que nous lisons? Il recevait tous ceux qui venaient le voir, prêchant le royaume de Dieu et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ en toute liberté et sans obstacle. Et nous terminons ce livre d'histoire et nous disons à Luc, Luc, comment tu peux dire que Paul, c'est le porte-parole du christianisme pour la plupart du monde? Il est emprisonné et il peut annoncer en toute liberté et sans obstacle. C'est parce que Luc veut souligner cette idée qu'il y a une croissance irrésistible de la voix. Même en prison, il peut annoncer et la voix croit. D'accord? Est-ce que j'ai raison? D'accord? On va regarder six passages qui résument cette idée qui se trouve tout au long des actes de Jésus-Christ. Par exemple, je vous invite à regarder dans vos Bibles, d'accord? Chapitre 2, en Actes. C'est le début à Jérusalem, juste après que le Saint-Esprit soit donné à l'Église. Et le verset 47, nous avons ce résumé. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Et on a cette idée d'une croissance, n'est-ce pas? D'accord? Il y avait 3000 personnes qui ont été sauvées et ajoutées à l'Église. Nous continuons, chapitre 6. Nous arrivons, c'est pas en fait un moment très beau dans la vie de l'Église. Il y a des disputes entre des croyants qui sont des juifs de souche, hein, Jérusalem, qui parlent hébreu, et les juifs qui viennent d'ailleurs, des hellénistes qui parlent grec et qui ont grandi ailleurs, pas en Jérusalem. Mais même ici, le verset 7, nous lisons, la parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Ça, c'est le deuxième résumé. Croissance irrésistible, malgré même des problèmes dans la communauté chrétienne. Nous continuons au chapitre 9. D'accord? Et dans ma Bible, j'ai souligné ces versets pour me donner un peu, pour m'aider à retrouver assez facilement. Mais le verset 31. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Troisième fois, un résumé. Qu'est-ce qu'il veut dire? L'Église est en train de croître malgré des problèmes internes, malgré la persécution. L'Église devient de plus en plus grande. Chapitre 12, d'accord? Chapitre 12, le verset 24. Cependant, la parole de Dieu se répandit de plus en plus et le nombre des disciples augmentait. Chapitre 16, le verset 5. Les églises se fortifiaient dans la foi et augmenter en nombre de jour en jour. On a cette idée qu'il y a une croissance qui choque. Hein? Jour après jour après jour, il y a plus de membres de l'Église, des personnes qui se baptisent, qui se convertissent. Chapitre 19, c'est le dernier, et le verset 20. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Donc, on a les six énoncés sommaires qui donnent cette idée dans les Actes des apôtres, l'impression d'une Église qui croit, qui augmente, qui se répandit, irrésistible. Sans résistance, elle peut pas être stoppée, bloquée. D'accord? Et pour nous aujourd'hui, peut-être nous avons parfois pourquoi nous ne voyons pas cette croissance aujourd'hui? Peut-être c'était plus facile pour eux à cette époque-là. Bon, considérons juste quelques observations sur ces passages. D'abord, je veux juste faire quelques observations sur l'immuabilité. C'est quoi qui n'a pas changé, ok? Qui ne peut pas changer. D'abord, l'œuvre de Dieu dans ce monde est caractérisée par trois éléments immuables. Dieu est en train de faire des disciples de Jésus-Christ. Quand nous pensons à l'Église, c'est quoi l'Église? C'est une association ici en France. C'est une association culturelle et culturelle. Nous mangeons ensemble. Nous faisons des sorties ensemble. Nous regardons la parole ensemble. Nous chantons, nous prions, nous faisons. Mais c'est quoi au cœur du christianisme? C'est quoi? C'est d'être un disciple d'une personne. Une vraie personne. Ça, c'est au cœur. C'est pas une liste des choses, une liste des lois. C'est pas l'adhérence à même une philosophie ou une doctrine. C'est la personne de Jésus-Christ qui est au centre. Et je voulais juste souligner, au début, chapitre 2, quand il parlait de la croissance, il parlait de croix, il parlait du fait que le Seigneur ajouter chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Mais au chapitre 6, nous voyons cette transition. Il commence à parler des disciples. Chapitre 6, le verset 7, la parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem. L'Église consiste des disciples. Pour notre Église, ce qui doit être immuable, on ne peut pas changer, c'est que l'Église consiste des personnes qui choisissent d'être des disciples de Jésus-Christ. C'est quoi être un disciple? C'est pas seulement ça, ça fait une partie de ce qu'un disciple fait. Mais d'être un disciple, c'est de suivre et d'apprendre. Et après, d'apprendre et de suivre. Voilà. Un disciple, c'est pas très difficile. Nous avons des disciples des systèmes de philosophie aujourd'hui. Cela veut dire quoi? Ils ont appris ce que le maître, le philosophe, dit. Et après, ils essaient de suivre ce que sa philosophie dit. Mais pour nous, c'est différent. Nous avons Jésus-Christ vivant aujourd'hui qui nous a laissé sa parole. Et nous sommes attachés à toi, Jésus. C'est ce que tu dis qui compte. C'est pas ce que je pense. C'est pas ce qu'ils disent. C'est toi. Ça, c'est immuable. Pour notre Église, nous devons toujours insister sur ce fait-là. Nous sommes les disciples de Jésus-Christ. Cela veut dire que ce n'est pas ce que nous pensons qui compte, mais c'est ce que Jésus dit qui compte. N'est-ce pas? On est tous d'accord. Ouais, je sais. Deuxième chose, deuxième observation. Les disciples de Christ vivent en communauté. Est-ce que vous avez noté qu'ils étaient toujours ensemble, ils rajoutaient? Aujourd'hui, quand j'étais pendant les années 90 et début des années 2000 aux États-Unis, c'était très, très, très commun d'avoir les gens qui disaient « Moi, je suis chrétien, j'aime Dieu, mais je n'aime pas l'Église. Je ne veux pas appartenir à une Église. Je vais faire ce que je veux. » Comme je veux, sans être embêté par les autres. On ne peut pas trouver ça dans le Nouveau Testament. les disciples de Christ vivent en communauté. Alors aujourd'hui, c'est un peu difficile. Comment vivre en communauté quand nous avons les plannings qui sont un peu différents? Nous habitons un peu loin. Nous ne pouvons pas être ensemble plus que 10 personnes ici. Nous devons porter le masque. C'est difficile dans une salle qui est très chaude. Hein. Voilà, je comprends. Mais ce qu'on ne peut pas changer, on ne peut pas changer ce fait que les disciples de Christ vivent en communauté. C'est obligatoire. C'est obligatoire. Et même pour les personnes qui sont un peu plus comme moi, qui aiment être seules, hein, qui ne sont pas gênées de passer la journée dans leur propre tête avec leurs propres pensées, nous ne pouvons pas vivre comme ça. Nous devons dire non en communauté. C'est central. Jésus veut que son peuple vive en communauté. Troisième chose, la parole de Dieu a un rôle central dans l'église des disciples de Jésus-Christ. Est-ce que vous avez noté? C'était rapide, je sais, mais chapitre 12 et le verset 24. Qu'est-ce qu'il a dit? Luc, quand il a écrit son résumé ici, il a dit: cependant, la parole de Dieu se répandit de plus en plus. Et le nombre des disciples augmentait. Chapitre 19 et le verset 20, il a écrit presque la même chose. C'est ainsi que la parole de Dieu croissait en puissance et en force. Pour nous, en tant qu'une église, Jésus-Christ est au centre. Mais ce n'est pas un Jésus-Christ qui est muet, qui n'a jamais parlé. Et en fait, notre connaissance de Jésus-Christ est liée à sa parole. C'est pourquoi notre église doit être une église où nous vivons ensemble, en communauté, mais où la parole de Dieu doit avoir un rôle central dans nos vies. Pas uniquement que chacun à la maison lit un peu de la Bible chaque jour, mais qu'en tant qu'une église, nous mettons l'attention sur ce que Jésus dit. C'est central. On ne peut pas changer ça. On peut laisser tomber les soirées où on fait des jeux de société, d'accord? On peut laisser tomber un peu aller au parc ensemble. Ce sont des bonnes choses. Mais nous ne pouvons pas laisser tomber la parole de Dieu qui est au centre de ce que nous faisons. C'est quelques observations sur ces 6 énoncés sommaires qu'ils trouvent en Actes. Ça, c'est sur l'immuabilité. On ne peut pas changer ces choses. Mais quelles sont les choses qui peuvent changer? Un peu de souplesse, d'accord? L'œuvre de Dieu dans ce monde s'adapte aux circonstances. Est-ce que vous avez lu les actes de Jésus-Christ des apôtres, à travers les apôtres? Si vous lisez, même rapidement avec un stylo dans la main, d'accord, vous allez noter vite que Jésus fait son œuvre dans l'approbation et la persécution. Par exemple, à la fin du chapitre 2, nous avons lu, je n'ai pas lu cette partie, mais ça fait partie du paragraphe. Ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. L'approbation. Et Dieu fait son travail dans l'Église. Mais aussi la persécution. Tout de suite, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4, chapitre 9, on a la persécution. Mais malgré les circonstances, l'œuvre de Dieu continue. Okay? Aujourd'hui, Si nous avons l'approbation, tant mieux. Mais s'il y a la persécution, c'est pas grave. L'œuvre de Jésus-Christ continue. Dans la paix et dans les disputes. La fin du chapitre 4, on a ce portrait d'une église où tout le monde aimait les autres. Ceux qui avaient les biens vendaient leurs biens pour partager avec ceux qui n'avaient rien. C'était la paix totale. Chapitre 6, nous commençons dispute. Les disputes entre les Juifs de Souche et les Juifs qui viennent plutôt d'ailleurs. Mais l'œuvre de Dieu continue. Il fallait s'adapter, il fallait choisir les diacres pour aider avec le ministère de l'Église. Un peu d'adaptation. On peut continuer à noter juste des observations. L'œuvre de Dieu s'adapte parmi les Juifs et parmi les non-Juifs. C'est-à-dire, si vous étiez à Jérusalem dans une église, il y aura dû être un peu le saveur des Juifs. Hein. Tout le monde s'habillait comme les Juifs. Les hommes avaient les cheveux comme les Juifs. Hein. Ils ne mangeaient pas du porc comme les Juifs. Mais l'œuvre de Dieu se fait aussi parmi les non-juifs. Et maintenant, on a une église totalement différente. Ils ne s'habillent pas comme les Juifs. Ils mangent des choses qui sont abhorrentes aux Juifs. Ça crée des problèmes, mais les églises s'adaptent. Oui, on peut avoir une église, une vraie église de Jésus-Christ qui a une culture juive et une culture de non-juive. Parce qu'il y a des choses qui sont immuables et les choses qui sont souples. D'accord? Et dernière chose, c'est dans la facilité ou dans l'empêchement. Ça semble qu'au début, chapitre 2, il disait, Luc dit quoi? Ils étaient tous les jours où? Dans le temple. C'est-à-dire, ils étaient toujours accueillis dans le temple avec les autres juifs. Un lieu de culte énorme avec beaucoup de place pour la distanciation, s'il fallait. Hein? Et ils pouvaient facilement retrouver en groupe pour louer le Seigneur. Mais ce n'était pas toujours comme ça. Nous lisons que Paul, il a commencé presque toujours dans les synagogues, n'est-ce pas? Il a été reçu dans les synagogues des Juifs, mais très vite après, il a été chassé des synagogues. Avant, il avait accès aux lieux de culte, où c'était normal pour parler de Dieu ici, mais maintenant, il faut trouver d'autres places, en Philippie, à côté d'une rivière, un lieu de prière. Au chapitre 19, on va passer notre temps au chapitre 19 des Actes. Chapitre 19, il se trouve en Éphèse, et nous lisons, d'accord? Juste avant ça, chapitre 19, le verset 20, c'est le dernier énoncé sommaire. Et juste avant, on a cette histoire de ce que Jésus est en train de faire. Paul entra, le verset 8, chapitre 19 des Actes. Il entre la synagogue où il parla librement pendant 3 mois. Il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Mais, Comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, sépara des disciples et enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Cela dura 2 ans. D'accord? Rapidement, on va juste faire une étude de cas. D'abord, il avait l'utilisation de la synagogue qui a été interrompue par l'opposition. Il avait la facilité, la synagogue, c'est où on parle de Dieu. Et voilà, il peut parler de Dieu, discuter avec les autres, essayer de convaincre les autres assez facilement, mais fini. L'opposition dure, il quitte la synagogue. Deuxième chose, il y a un changement pour assurer l'étude de la parole d'une manière régulière. C'est-à-dire, je ne peux plus enseigner la parole ici de Jésus-Christ parce qu'il y a l'opposition. Je vais changer lieu pour assurer l'enseignement de la parole. Vous voyez, ce qui est immuable, la parole et les disciples. Où il y a de la souplesse, c'est le lieu et l'horaire, le créneau, d'accord? Normalement, on sait qu'il y avait eu un changement de location. Il a dû trouver un monsieur qui a une salle, une école, probablement une école de philosophie, qui a dit, oui, vous pouvez utiliser la salle. Et ce qui est intéressant, c'était probablement pas un créneau idéal. 11h à 16h. D'accord? Il y a des manuscrits grecs qui disent que c'était ces heures-là. 11h à 16h. Et nous pouvons peut-être dire, oh, c'est pas très grave. Sauf que c'était le créneau de la sieste. D'accord. J'ai lu un expert qui a dit qu'il y aura probablement plus de personnes à 1h le matin qui étaient réveillées qu'à 13h. Bon, on peut imaginer qu'ici, on dit oui, à partir de dimanche prochain, on va avoir notre culte à 5h le matin. Oh. Bah, mais on dort. Ah oui. Ah oui, c'est pas idéal. Mais on peut changer le lieu, on peut changer le créneau. Ce qu'on ne peut pas changer, c'est Jésus-Christ, d'être un disciple de Jésus-Christ et d'être fixé sur sa parole. Est-ce que vous voyez? Étude de cas. Je n'annonce pas maintenant qu'on va commencer dimanche prochain à louer le Seigneur à 5 le matin. D'accord? Ne vous inquiétez-vous pas. Mais juste pour noter, il y a un changement pour assurer ce qui est immuable et c'est OK. C'est OK. Ensuite, l'étude de la parole entraînait la propagation de la parole de Dieu en toute Asie. D'accord? On peut dire, ah, la facilité, on est dans la synagogue, on peut prêcher Christ. Dieu, tu fais des choses merveilleuses. Je peux voir la sagesse ici. Tout d'un coup, on est chassé de la synagogue. Maintenant, nous devons enseigner au milieu de la journée, là où la plupart de personnes font leur sieste. C'est un peu comme notre étude biblique avant, après avoir mangé. C'est dur de rester éveillé, n'est-ce pas? Ce n'est pas idéal. Et je rajoute que c'est à Éphèse que Paul a pratiqué son métier. Cela veut dire que probablement il travaille le matin, il enseignait au milieu de la journée, après, à l'après, il a terminé son travail. Ce n'était pas idéal selon notre façon de penser et nous sommes tentés peut-être de dire ça ne peut pas arriver à un bon fin. Mais lisons le reste du passage. Le verset 10, d'accord, Actes 19, 10. Cela dura 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Comment ça se produit? Il ne peut plus être dans la synagogue où il est normal de parler avec les juifs de Dieu. Il doit louer un lieu, mais pas dans le bon moment. Et il enseigne jusqu'au point que toutes les personnes dans l'Asie ont entendu parler de Jésus-Christ. Comment ça se produit? C'est comme ça. Ils ont resté fermement attachés à ce qui est immuable, la personne de Jésus-Christ et sa parole, et l'enseignement systématique de sa parole. Les personnes qui sont venues ont appris ce que dit Jésus et ils sont partis pour parler aux autres de la parole de Jésus-Christ. Est-ce que vous voyez? C'est un peu ce que Paul dit quand il écrit à l'église d'Éphèse, chapitre 4. Dieu donne les docteurs et les pasteurs pour enseigner. Mais pourquoi? Pour que les membres de l'Église soient formés pour faire le ministère. Est-ce que vous voyez? Restez affirmés à Jésus-Christ comme ses disciples. Restez attachés à sa parole. Et pourquoi? Pour que chaque chrétien, chaque chrétienne soit préparé pour répandre l'enseignement de Jésus-Christ. Et c'est comme ça qu'on peut dire peut-être que toute Pessac, Gradignan, Mérignac, Talence, Villeneuve-d'Ornon et ailleurs, j'oublie le nom de ton village, David, mais partout, que Jésus-Christ et son enseignement soient connus. Est-ce que vous voyez? Il y a des choses qui sont immuables, mais des choses qui sont souples. Et pour nous, ça c'est important parce que nous avons des décisions à prendre en tant qu'une église. D'accord? Et je ne suis pas ici pour annoncer toutes les décisions à prendre, mais pour donner une vision et quelques pistes. Application. Que Dieu nous aide en tant qu'une église de garder devant nos yeux Jésus, une véritable personne qui est au centre de tout ce que nous faisons en tant qu'une église. D'accord? Ça, c'est pas bien dit. Jésus-Christ doit être le plus important. Pas ce que nous faisons, mais Jésus-Christ. Il doit être au centre de chaque vie. Et si vous êtes là, les enfants, les adultes, si vous êtes là, OK? Et Jésus, vous vous posez la question, c'est quoi ce christianisme? Je suis un peu intéressé, mais je ne connais pas trop. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ crucifié pour nos péchés, mais ressuscité à vivre à jamais pour notre justification, notre salut. Jésus-Christ, et nous devons être une église qui est connue pour Jésus-Christ. D'accord? Pas pour comment nous faisons des choses, pas pour comment nous habillons, nous chantons, pas pour comment nous mangeons ensemble, mais parce que nous sommes attachés à Jésus-Christ, une vraie personne. Deuxième chose. Gardons devant nos yeux que nous sommes en premier des disciples de cette personne. C'est-à-dire, je le suis et j'apprends ce qu'il dit. Ce n'est pas pour gagner, mais c'est parce que je suis un disciple. Je fais ce qu'il dit. C'est normal. C'est logique. Troisième chose, gardons devant nos yeux que la parole de Jésus est au centre de la vie des disciples. En tant qu'une église, pendant ces jours obscurs et difficiles, l'enseignement de la parole de Dieu doit rester au centre de notre identité. en Jésus-Christ. Parce que nous voulons savoir ce que notre Seigneur dit. D'accord? C'est juste une question de savoir ce que notre Sauveur dit. Quatrième chose, gardons devant nos yeux que nous devons être souples en ce qui concerne les circonstances de l'Église. Et ça, nous sommes là, d'accord? C'est bizarre aujourd'hui. Hein? C'est bizarre pour vous de porter le masque. C'est bizarre pour moi de vous regarder portant le masque, hein, d'accord? De prêcher, c'est d'avoir un interchange avec les gens. Maintenant, je peux voir les yeux, mais plutôt où les yeux doivent être parce que je ne peux pas voir vraiment ce qui est là. Pas des souris, je ne sais pas. On change des choses parce qu'il faut, mais en gardant toutes ces choses immuables pour l'Église. Continue avec les applications. Pour la parole au centre de notre Église, nous allons garder la prédication le dimanche. Et on ne va pas changer ça. On ne peut pas changer ça. Nous allons recommencer notre étude générale le mercredi. Mais en parlant avec Lala, pour le moment, ça doit continuer d'être par Internet. Mais peut-être ça c'est mieux pour notre Église. Parce qu'il y a pas mal de personnes qui ne peuvent pas venir le mercredi soir parce que c'est trop loin ou ils arrivent du travail trop tard. D'accord? Mais on va continuer, on va recommencer mercredi d'avoir les études par Internet. Les classes pour les enfants, ça travaille mon cœur que nous n'avons pas eu des choses pour les enfants. Et Lala et moi, nous sommes en train de considérer l'achat d'un programme par vidéo, d'accord, qui vient avec toutes les choses à remplir. Les enfants peuvent regarder les vidéos qui enseignent systématiquement la Bible. Ils ont des affiches pour remplir et pour suivre, pour avoir un temps pour apprendre. Parce que c'est important. On ne peut pas oublier les enfants malgré le COVID. Hein. Les réunions des hommes, des femmes, des jeunes. Mais il faut trouver d'autres façons de faire. Mais toutes ces réunions doivent être autour de ce que notre Seigneur dit. Pour encourager les uns les autres, pour avancer dans notre foi. Ça, c'est une application. Quelles sont les circonstances souples? À partir de dimanche prochain, nous devons se réunir dans la petite salle à côté. J'ai pleuré, j'ai demandé, j'ai essayé un pot de vin, mais non, pas vraiment, d'accord, un pot de vin. Monsieur Conrad, il est très agréable, il nous aime, il apprécie que nous sommes très faciles, mais il ne peut plus nous permettre d'utiliser cette salle après ce dimanche. Okay? En fait, ce qu'il m'a dit, c'est que c'est leur habitude depuis 7 ans de ne pas louer la salle, la grande salle, pendant mi-juillet jusqu'au début de septembre parce qu'il fait trop chaud. Donc, il a pu nous permettre d'être ici. Merci Seigneur. Mais nous devons reprendre le culte dans la petite salle. Ça va exiger un certain niveau de souplesse pour nous. Parce qu'elle est plus petite. Je suis allé ce matin pour prendre des mesures, pour savoir combien de personnes on peut recevoir, comment on peut arranger les choses. Je vais vous envoyer demain soir un mail pour vous informer ce que nous pensons nous pouvons faire. D'accord? Mais probablement, nous aurons être obligés d'avoir 2 cultes le dimanche matin pour recevoir toute l'Église. Mais bon, on va continuer à prier, prions ensemble. Les études par Internet. Je suis de plus en plus convaincu que nous devons utiliser l'Internet pour les études au milieu de la semaine. C'est plus facile à suivre. C'est là si vous voulez aller un peu plus tard. Si le créneau ne marche pas trop pour vous,
on peut le faire.
Les réunions dans les maisons. Quelque chose qui peut-être nous serons un peu plus comme les premiers croyants, c'est de recevoir les autres dans nos propres maisons. Et je sais que ça exige du travail. D'accord? Je sais. Je sais qu'il y a un certain niveau de crainte, peut-être, pour certains. Qu'est-ce qu'ils vont penser de ma maison ou de la nourriture que je fournisse? Bon, plein de choses. Mais en tant qu'une église, nous devons transitionner. Parce que pour l'instant, nous ne pouvons pas rester manger ensemble. C'est pas une chose qu'on peut faire chaque dimanche. Et ça nous amène à la communion fraternelle. Comment pouvons-nous nous adapter pour avoir la communion fraternelle? Parce qu'on a vu, ce qui est immuable, c'est que nous vivons en communauté. Mais comment faire dans notre contexte actuel? Nous devons réfléchir. Est-ce qu'on utilise les parcs lorsqu'il fait beau? On dit d'accord, on a notre culte, mais on va faire un pique-nique en groupe. Est-ce qu'on invite une fois par mois peut-être quelqu'un de venir chez nous, ou plusieurs personnes venir chez nous pour manger ensemble, pour partager? Quand il commence à faire froid, qu'est-ce qu'on va faire? On doit réfléchir, mais ce qui est immuable, c'est que nous vivons en communauté. Mais il faut avoir la souplesse pour savoir comment on peut le faire sans épuiser tout le monde. Voilà. Vous voyez, nous avons des choses devant nous. Mais nous avons les choses pour nous qui sont inconnues, mais nous voyons que l'Église a déjà vécu ça. L'Église grandeur. Gardons ce qui est immuable et avec souplesse ce qui ne l'est pas.